Dans cette conversation qui dura 2 heures, Rodolphe découvrit en Francesca l'enthousiasme des idées libérales et ce culte de la liberté qui avait fait la triple révolution de Naples, du Piémont et de l'Espagne. En sortant, il fut conduit jusqu'à la porte par Gina, la fausse muette. À 11 heures, personne ne rôdait dans ce village. Aucune indiscrétion n'était à craindre. Rodolphe attira Gina dans un coin et lui demanda tout bas en mauvais italien « Qui sont tes maîtres, mon enfant ? Dis-le-moi, je te donnerai cette pièce d'or toute neuve. » « Monsieur, répondit l'enfant en prenant la pièce, monsieur est le fameux libraire Lamporani de Milan, l'un des chefs de la Révolution et le conspirateur que l'Autriche désire le plus tenir au Spielberg. » La femme d'un libraire, et tant mieux, pensa-t-il, nous sommes de plein pied. De quelle famille est-elle, reprit-il à haute voix, car elle a l'air d'une reine. Toutes les Italiennes sont ainsi, répondit fièrement Gina. Le nom de son père est Colonna. Enhardi par l'humble condition de Francesca, Rodolphe fit mettre un tant de lait à sa barque et des coussins à l'arrière. Quand ce changement fut opéré, l'amoureux vint proposer à Francesca de se promener sur le lac. L'Italienne accepta, sans doute pour jouer son rôle de jeune miss aux yeux du village, mais elle emmena Gina. Les moindres actions de Francesca Colonna trahissaient une éducation supérieure et le plus haut rang social. À la manière dont s'assit l'Italienne au bout de la barque, Rodolphe se sentit en quelque sorte séparé d'elle, et devant l'expression d'une vraie fierté de noble, sa familiarité préméditée tomba. Par un regard, Francesca se fit princesse avec tous les privilèges dont elle eut joui au Moyen-Âge. Elle semblait avoir deviné les secrètes pensées de ce vassal qui avait l'audace de se constituer son protecteur. Déjà, dans l'ameublement du salon où Francesca l'avait reçu, dans sa toilette et dans les petites choses qui lui servaient, Rodolphe avait reconnu les indices d'une nature élevée et d'une haute fortune. Toutes ces observations lui revinrent à la fois dans la mémoire, et il devint rêveur après avoir été, pour ainsi dire, refoulé par la dignité de Francesca. Gina, cette confidente à peine adolescente, semblait elle-même avoir un masque railleur en regardant Rodolphe en dessous ou de côté. Ce visible désaccord entre la condition de l'Italienne et ses manières fut une nouvelle énigme pour Rodolphe, qui soupçonna quelque autre ruse semblable au faux mutisme de Gina. « Où voulez-vous aller, signora Lamporani ? » dit-il. « Vers Lucerne, répondit en français Francesca. « Bon, pensa Rodolphe, elle n'est pas étonnée de m'entendre lui dire son nom. Elle avait sans doute prévu ma demande à Gina, la rusée. « Qu'avez-vous contre moi ? » dit-il en venant enfin s'asseoir près d'elle et lui demandant par un geste une main que Francesca retira. « Vous êtes froide et cérémonieuse. En style de conversation, nous dirions cassante. »« C'est vrai, répliqua-t-elle en souriant. J'ai tort, ce n'est pas bien, c'est bourgeois. Vous diriez en français, ce n'est pas artiste. » Il vaut mieux s'expliquer que de garder contre un ami des pensées hostiles ou froides. Et vous m'avez prouvé déjà votre amitié. Peut-être suis-je allé trop loin avec vous. Vous avez dû me prendre pour une femme très ordinaire. Rodolphe multiplia les signes de dénégation. Oui, dit cette femme de libraire en continuant sans tenir compte de la pantomime qu'elle voyait bien d'ailleurs. Je m'en suis aperçu et naturellement je reviens sur moi-même. Eh bien, je terminerai tout par quelques paroles d'une profonde vérité. Sachez-le bien, Rodolphe, je sens en moi la force d'étouffer un sentiment qui ne serait pas en harmonie avec les idées ou la préscience que j'ai du véritable amour. Je puis aimer comme nous savons aimer en Italie, mais je connais mes devoirs. Aucune ivresse ne peut me les faire oublier. Mariée sans mon consentement à ce pauvre vieillard, je pourrais user de la liberté qu'il me laisse avec tant de générosité. Mais 3 ans de mariage équivalent à une acceptation de la loi conjugale. Aussi, la plus violente passion ne me ferait-elle pas émettre, même involontairement, le désir de me trouver libre. Emilio connaît mon caractère. Il sait que, hors mon cœur qui m'appartient et que je puis livrer, je ne me permettrai pas de laisser prendre ma main, et voilà pourquoi je viens de vous la refuser. Je veux être aimé, attendu avec fidélité, noblesse, ardeur, en ne pouvant accorder qu'une tendresse infinie, dont l'expression ne dépassera point l'enceinte du cœur, le terrain permis. Toutes ces choses bien comprises, oh, reprit-elle avec un geste de jeune fille, je vais redevenir coquette, rieuse, folle, comme un enfant qui ne connaît pas le danger de la familiarité. Cette déclaration si nette, si franche, fut faite d'un ton, d'un accent, et accompagnée de regards qui lui donnèrent la plus grande profondeur de vérité. « Une princesse Colonna n'aurait pas mieux parlé, » dit Rodolphe en souriant. « Est-ce, répliqua-t-elle avec un air de hauteur, un reproche sur l'humilité de ma naissance ? Faut-il un blason à votre amour ? À Milan, les plus beaux noms, Sforza, Canova, Visconti, Trivulzio, Ursini, sont écrits au-dessus des boutiques. Il y a des Archinto apothicaires, mais croyez que malgré ma condition de boutiquière, j'ai les sentiments d'une duchesse. Un reproche ? Non, madame, j'ai voulu vous faire un éloge. Par une comparaison ? Dit-elle avec finesse. Ah, sachez-le, reprit-il, afin de ne plus me tourmenter si mes paroles peignaient mal mes sentiments. Mon amour est absolu. Il comporte une obéissance et un respect infinis. Elle inclina la tête en femme satisfaite et dit « Monsieur accepte alors le traité ?»« Oui, dit-il, je comprends que dans une puissante et riche organisation de femmes, la faculté d'aimer ne saurait se perdre, et que, par délicatesse, vous vouliez la restreindre. Ah, Francesca, une tendresse partagée, à mon âge et avec une femme aussi sublime, aussi royalement belle que vous l'êtes, mais c'est voir tous mes désirs comblés. Vous aimez comme vous voulez être aimé, n'est-ce pas pour un jeune homme se préserver de toutes les folies mauvaises ? N'est-ce pas employer ses forces dans une noble passion de laquelle on peut être fier plus tard et qui ne donne que de beaux souvenirs ? Si vous saviez de quelle couleur, de quelle poésie vous venez de revêtir la chaîne du Pilate, le Righi et ce magnifique bassin. « Je veux le savoir, » dit-elle avec la naïveté d'une Italienne qui comporte toujours un peu de finesse. « Eh bien, cet or rayonnera sur toute ma vie, comme un diamant au front d'une reine. » Pour toute réponse, Francesca posa sa main sur celle de Rodolphe. « Oh, cher, à jamais cher, dites, vous n'avez jamais aimé, » demanda-t-il. « Jamais. Et vous me permettez de vous aimer noblement en attendant tout du ciel. » Elle inclina doucement la tête. De grosses larmes roulèrent sur les joues de Rodolphe. « Eh bien, qu'avez-vous ? » dit-elle en quittant son rôle d'impératrice. « Je n'ai plus ma mère pour lui dire combien je suis heureux. Elle a quitté cette terre sans voir ce qui eût adouci son agonie. « Quoi ? » fit-elle. « Sa tendresse remplacée par une tendresse égale. « Povero mio !» s'écria l'Italienne attendrie. « C'est, croyez-moi, reprit-elle après une pause, une bien douce chose et un bien grand élément de fidélité pour une femme que de se savoir tout sur la terre pour celui qu'elle aime, de le voir seul, sans famille, sans rien dans le cœur que son amour, enfin de l'avoir bien tout entier. » Quand deux amants se sont entendus ainsi, le cœur éprouve une délicieuse quiétude, une sublime tranquillité. La certitude est la base que veulent les sentiments humains, car elle ne manque jamais aux sentiments religieux. L'homme est toujours certain d'être payé de retour par Dieu. L'amour ne se croit en sûreté que par cette similitude avec l'amour divin. Aussi faut-il les avoir pleinement éprouvés pour comprendre les voluptés de ce moment, toujours unis que dans la vie. Il ne revient pas plus que ne reviennent les émotions de la jeunesse. Croire à une femme, faire d'elle sa religion humaine, le principe de sa vie, la lumière secrète de ses moindres pensées. N'est-ce pas une seconde naissance ? Un jeune homme mêle alors à son amour un peu de celui qu'il a pour sa mère. Rodolphe et Francesca gardèrent pendant quelque temps le plus profond silence, se répondant par des regards amis pleins de pensées. Ils se comprenaient au milieu d'un des plus beaux spectacles de la nature, dont les magnificences expliquées par celles de leur cœur les aidaient à se graver dans leur mémoire les plus fugitives impressions de cette heure unique. Il n'y avait pas eu la moindre apparence de coquetterie dans la conduite de Francesca. Tout en était large, plein, sans arrière-pensée. Cette grandeur frappa vivement Rodolphe, qui reconnaissait en ceci la différence qui distingue l'italienne de la française. Les eaux, la terre, le ciel, la femme, tout fut donc grandiose et suave, même leur amour, au milieu de ce tableau vaste dans son ensemble, riche dans ses détails, et où l'âpreté des cimes neigeuses, leurs plis raides nettement détachés sur l'azur, rappelait à Rodolphe les conditions dans lesquelles devait se renfermer son bonheur. Un riche pays cerclé de neige. Cette douce ivresse de l'âme devait être troublée. Une barque venait de Lucerne. Gina, qui depuis quelque temps la regardait avec attention, fit un geste de joie en restant fidèle à son rôle de muette. La barque approchait, et quand enfin Francesca put y distinguer les figures, « Tito !» s'écria-t-elle en apercevant un jeune homme. Elle se leva debout au risque de se noyer et cria « Tito ! Tito !» en agitant son mouchoir. Tito donna l'ordre à ses bateliers de nager et leurs deux barques se mirent sur la même ligne. L'Italienne et l'Italien parlèrent avec une si grande vivacité, dans un dialecte si peu connu d'un homme qui savait à peine l'italien des livres et n'était pas allé en Italie, que Rodolphe ne put rien entendre ni deviner de cette conversation. La beauté de Tito, la familiarité de Francesca, l'air de joie de Gina, tout le chagrinait. D'ailleurs, il n'est pas d'amoureux qui ne soit mécontent de se voir quitter pour quoi que ce soit. Tito jeta vivement un petit sac de peau, sans doute plein d'or, à Gina, puis un paquet de lettres à Francesca, qui se mit à les lire en faisant un geste d'adieu à Tito. Retournez promptement à Gerso, dit-elle au batelier. Je ne veux pas laisser languir mon pauvre Emilio des minutes de trop. Que vous arrive-t-il? Demanda Rodolphe, quand il vit l'Italienne achevant sa dernière lettre. La libertà, fit-elle avec un enthousiasme d'artiste. Et denaro, répondit comme un écho Gina, qui pouvait enfin parler. Oui, reprit Francesca, plus de misère. Voici plus de 11 mois que je travaille, et je commençais à m'ennuyer. Je ne suis décidément pas une femme littéraire. Quel est ce Tito? Fit Rodolphe. Le secrétaire d'État au département des finances de la pauvre boutique de Colonna, autrement dit, le fils de notre Ragionato. Pauvre garçon, il n'a pu venir par le Saint-Gothard, ni par le Mont-Cenis, ni par le Saint-Plon. Il est venu par mer, par Marseille, il a dû traverser la France. Enfin, dans 3 semaines, nous serons à Genève, et nous y vivrons à l'aise. « Allons, Rodolphe, dit-elle en voyant la tristesse se peindre sur le visage du Parisien. Le lac de Genève, ne vaudra-t-il pas bien le lac des 4 cantons ?»« Permettez-moi d'accorder un regret à cette délicieuse maison Bergmann, » dit Rodolphe en montrant le promontoire. « Vous viendrez dîner avec nous pour y multiplier vos souvenirs, povero mio, » dit-elle. « C'est fait aujourd'hui. » Nous ne sommes plus en danger. Ma mère me dit que dans 1 an, peut-être, nous serons amnistiés. Oh, la cara patria! Ces 3 mots firent pleurer Gina qui dit, encore un hiver, je serai morte ici. Pauvre petite chèvre de Sicile, fit Francesca, en passant sa main sur la tête de Gina, par un geste et avec une affection qui firent désirer à Rodolphe d'être ainsi caressé, quoique ce fût sans amour. La barque abordait. Rodolphe sauta sur le sable, tendit la main à l'italienne, la reconduisit jusqu'à la porte de la maison Bergmann et alla s'habiller pour revenir au plus tôt. En trouvant le libraire et sa femme assis sur la galerie extérieure, Rodolphe réprima difficilement un geste de surprise à l'aspect du prodigieux changement que la bonne nouvelle avait apporté chez le nonagénaire. Il apercevait un homme d'environ 60 ans, parfaitement conservé, un Italien sec, droit comme un i, les cheveux encore noirs, quoique rares, et laissant voir un crâne blanc, des yeux vifs, des dents au complet et blanches, un visage de César, et sur une bouche diplomatique un sourire quasi sardonique, le sourire presque faux sous lequel l'homme de bonne compagnie cache ses vrais sentiments. « Voici mon mari sous sa forme naturelle, » dit gravement Francesca. « C'est tout à fait une nouvelle connaissance, » répondit Rodolphe interloqué. « Tout à fait, » dit le libraire, « j'ai joué la comédie, et sais parfaitement me grimer. » « Ah, je jouais à Paris du temps de l'Empire, avec Bourrienne, Madame Murat, Madame d'Abrantès et tutti quanti. » Tout ce qu'on s'est donné la peine d'apprendre dans sa jeunesse, et même les choses futiles, nous servent. Si ma femme n'avait pas reçu cette éducation virile, un contresens en Italie, il m'eût fallu, pour vivre ici, devenir bûcheron. Povera Francesca, qui me dit qu'elle me nourrirait un jour ? En écoutant ce digne libraire, si aisé, si affable et si vert, Rodolphe crut à quelque mystification et resta dans le silence observateur de l'homme dupé. « Qui avait-été, signor ?» lui demanda naïvement Francesca. « Notre bonheur vous attristerait-il ? » ?»« Votre mari est un jeune homme, » lui dit-il à l'oreille. Elle partit d'un éclat de rire si franc, si communicatif, que Rodolphe en fut encore plus interdit. « Il n'a que 65 ans à vous offrir, » dit-elle, « mais je vous assure que c'est encore quelque chose de rassurant. Je n'aime pas à vous voir plaisantant avec un amour aussi sain que celui dont les conditions ont été posées par vous. « Zitto, » fit-elle en frappant du pied et en regardant si son mari les écoutait, « ne troublez jamais la tranquillité de ce cher homme, candide comme un enfant, et de qui je fais ce que je veux. » « Il est, ajouta-t-elle, sous ma protection. Si vous saviez avec quelle noblesse il a risqué sa vie et sa fortune, parce que j'étais libérale. Car il ne partage pas mes opinions politiques. Est-ce aimé, cela, monsieur le Français ? Mais ils sont ainsi dans leur famille. Le frère cadet d'Emilio fut trahi par celle qu'il aimait pour un charmant jeune homme. Il s'est passé son épée au travers du cœur, et 10 minutes auparavant, il a dit à son valet de chambre, « Je tuerais bien mon rival, mais cela ferait trop de chagrin à la diva. » Ce mélange de noblesse et de raillerie, de grandeur et d'enfantillage, faisait en ce moment de Francesca la créature la plus attrayante du monde. Le dîner fut, ainsi que la soirée, empreint d'une gaieté que la délivrance des deux réfugiés justifiait, mais qui contrista Rodolphe. « Serait-elle légère ? » se disait-il en regagnant la maison Stoffer. « Elle a pris part à mon deuil, et moi je n'épouse pas sa joie. » Il se gronda, justifia cette femme, jeune fille. « Elle est sans aucune hypocrisie, et s'abandonne à ses impressions, » se dit-il. « Et je la voudrais comme une Parisienne. » Le lendemain et les jours suivants, pendant 20 jours enfin, Rodolphe passa tout son temps à la maison Bergmann, observant Francesca sans s'être promis de l'observer. L'admiration chez certaines âmes ne va pas sans une sorte de pénétration. Le jeune Français reconnut en Francesca la jeune fille imprudente, la nature vraie de la femme encore insoumise, se débattant par instants avec son amour et s'y laissant aller complaisamment en d'autres moments. Le vieillard se comportait bien avec elle comme un père avec sa fille, et Francesca lui témoignait une reconnaissance profondément sentie qui réveillait en elle d'instinctive noblesse. Cette situation et cette femme présentaient à Rodolphe une énigme impénétrable, mais dont la recherche l'attachait de plus en plus. Ces derniers jours furent remplis de fêtes secrètes, entremêlées de mélancolie, de révolte, de querelles plus charmantes que les heures où Rodolphe et Francesca s'entendaient. Enfin, il était de plus en plus séduit par la naïveté de cette tendresse sans esprit, semblable à elle-même en toute chose, de cette tendresse jalouse d'un rien, déjà. « Vous aimez bien le luxe, » dit-il un soir à Francesca, qui manifestait le désir de quitter Gerso, où beaucoup de choses lui manquaient. « Moi, » dit-elle, « j'aime le luxe comme j'aime les arts, comme j'aime un tableau de Raphaël, un beau cheval, une belle journée, ou la baie de Naples. « Emilio, » dit-elle, « me suis-je plainte ici, pendant nos jours de misère ?»« Vous n'eussiez pas été vous-même, » dit gravement le vieux libraire. « Après tout, n'est-il pas naturel à des bourgeois d'ambitionner la grandeur ?» reprit-elle en lançant un malicieux coup d'œil à Rodolphe et à son mari. « Mes pieds, » dit-elle en avançant deux petits pieds charmants, « sont-ils faits pour la fatigue ?»« Mes mains ?» elle tendit une main à Rodolphe. « Ses mains sont-elles faites pour travailler ?»« Laissez-nous, » dit-elle à son mari, « je veux lui parler. » Le vieillard rentra dans le salon avec une sublime bonhomie. Il était sûr de sa femme. « Je ne veux pas, » dit-elle à Rodolphe, « que vous nous accompagniez à Genève. Genève est une ville à caquetage. Quoique je sois bien au-dessus des niaiseries du monde, je ne veux pas être calomnié, non pour moi mais pour lui. Je mets mon orgueil à être la gloire de ce vieillard, mon seul protecteur après tout. » « Nous partons. Restez ici pendant quelques jours. Quand vous viendrez à Genève, voyez d'abord mon mari. Laissez-vous présenter à moi par lui. Cachons notre inaltérable et profonde affection au regard du monde. Je vous aime, vous le savez, mais voici de quelle manière je vous le prouverai. Vous ne surprendrez pas, dans ma conduite, quoi que ce soit qui puisse réveiller votre jalousie. » Elle l'attira dans le coin de la galerie, le prit par la tête, le baisa sur le front et se sauva, le laissant stupéfait. Le lendemain, Rodolphe apprit qu'au petit jour, les hôtes de la maison Bergmann étaient partis. L'habitation de Gerso lui parut dès lors insupportable, et il alla chercher Vevey par le chemin le plus long, en voyageant plus promptement qu'il ne le devait. Mais attiré par les eaux du lac où l'attendait la belle italienne, il arriva vers la fin du mois d'octobre à Genève. Pour éviter les inconvénients de la ville, il se logea dans une maison située aux eaux vives en dehors des remparts. Une fois installé, son premier soin fut de demander à son hôte, un ancien bijoutier, s'il n'était pas venu depuis peu s'établir des réfugiés italiens, des Milanais à Genève. « Non, que je sache, » lui répondit son hôte. « Le prince et la princesse Colonna de Rome ont loué pour 3 ans la campagne de Monsieur Jean Renaud, une des plus belles du lac. Elle est située entre la villa Diodati et la campagne de Monsieur Lafin de Dieu, qu'a loué la vicomtesse de Beauséant. Le prince Colonna est venu là pour sa fille et pour son gendre le prince Gandolfini, un Napolitain, ou, si vous voulez, Sicilien, ancien partisan du roi Murat et victime de la dernière révolution. Voilà les derniers venus à Genève, et ils ne sont point milanais. Il a fallu de grandes démarches et la protection que le pape accorde à la famille Colonna pour qu'on ait obtenu, des puissances étrangères et du roi de Naples, la permission pour le prince et la princesse Gandolfini de résider ici. Genève ne veut rien faire qui déplaise à la Sainte Alliance, à qui elle doit son indépendance. Notre rôle n'est pas de fronder les cours étrangères. Il y a beaucoup d'étrangers ici, des Russes, des Anglais, il y a même des Genevois. « Oui, monsieur, notre lac est si beau. Lord Byron y a demeuré il y a 7 ans environ, à la Villa Diodati, et maintenant tout le monde va voir comme Coppette, comme Fernet. Vous ne pourriez pas savoir s'il est venu depuis une semaine, un libraire de Milan et sa femme, un nommé Lamporini, l'un des chefs de la dernière révolution. Je puis le savoir en allant au cercle des étrangers, dit l'ancien bijoutier. » La première promenade de Rodolphe eut naturellement pour objet la Villa Diodati, cette résidence de Lord Byron, à laquelle la mort récente de ce grand poète donnait encore plus d'attrait. La mort est le sacre du génie. Le chemin, qui des eaux vives côtoie le lac de Genève, est comme toutes les routes de Suisse, assez étroit, mais en certains endroits, par la disposition du terrain montagneux, à peine reste-t-il assez d'espace pour que deux voitures s'y croisent. À quelques pas de la maison Jean Renaud, près de laquelle il arrivait sans le savoir, Rodolphe entendit derrière lui le bruit d'une voiture, et se trouvant dans une espèce de gorge, il grimpa sur la pointe d'une roche pour laisser le passage libre. Naturellement, il regarda venir la voiture, une élégante calèche attelée de 2 magnifiques chevaux anglais. Il lui prit un éblouissement en voyant, au fond de cette calèche, Francesca divinement mise, à côté d'une vieille dame raide comme un camée. Un chasseur, étincelant de dorure, se tenait debout derrière. Francesca reconnut Rodolphe et sourit de le retrouver comme une statue sur un piédestal. La voiture, que l'amoureux suivit de ses regards en gravissant la hauteur, tourna pour entrer par la porte d'une maison de campagne vers laquelle il courut. « Qui demeure ici ? » demanda-t-il au jardinier. « Le prince et la princesse Colonna, ainsi que le prince et la princesse Gandolfini. « N'est-ce pas elle qui rentre ?»« Oui, monsieur. » En un moment, un voile tomba des yeux de Rodolphe. Il vit clair dans le passé. Pourvu, se dit enfin l'amoureux foudroyé, que ce soit sa dernière mystification. Il tremblait d'avoir été le jouet d'un caprice, car il avait entendu parler de ce qu'est un capriccio pour une Italienne. Mais quel crime aux yeux d'une femme d'avoir accepté pour une bourgeoise, une princesse née princesse, d'avoir pris la fille d'une des plus illustres familles du Moyen-Âge, pour la femme d'un libraire. Le sentiment de ses fautes redoubla chez Rodolphe, son désir de savoir s'il serait méconnu, repoussé. Il demanda le prince Gandolfini en lui faisant porter une carte et fut aussitôt reçu par le faux Lamporani qui vint au-devant de lui, l'accueillit avec une grâce parfaite, avec une affabilité napolitaine, et le promena le long d'une terrasse d'où l'on découvrait Genève, le Jura et ses collines chargées de villas, puis les rives du lac sur une grande étendue. « Ma femme, vous le voyez, est fidèle au lac, » dit-il après avoir détaillé le paysage à son hôte. « Nous avons une espèce de concert ce soir, » ajouta-t-il, en revenant vers la magnifique maison Jean Renaud. « J'espère que vous nous ferez le plaisir, à la princesse et à moi, d'y venir. » 2 mois de misère supportée de compagnie équivalent à des années d'amitié. Quoique dévoré de curiosité, Rodolphe n'osa demander à voir la princesse. Il retourna lentement aux eaux vives, préoccupé de la soirée. En quelques heures, son amour, quelque immense qu'il fût déjà, se trouvait agrandi par ses anxiétés et par l'attente des événements. Il comprenait maintenant la nécessité de se faire illustre pour se trouver, socialement parlant, à la hauteur de son idole. À ses yeux, Francesca devenait bien grande par le laisser-aller et la simplicité de sa conduite à Gerso. L'air naturellement altier de la princesse Colonna faisait trembler Rodolphe, qui allait avoir pour ennemis le père et la mère de Francesca, du moins il le pouvait croire, et le mystère que la princesse Gandolfini lui avait tant recommandé lui parut alors une admirable preuve de tendresse. En ne voulant pas compromettre l'avenir, Francesca ne disait-elle pas bien qu'elle aimait Rodolphe? Enfin 9 heures sonnèrent. Rodolphe put monter en voiture et dire avec une émotion facile à comprendre « À la maison Jean-Renaud, chez le prince Gandolfini ». Enfin il entra dans le salon plein d'étrangers de la plus haute distinction et où il resta forcément dans un groupe près de la porte, car en ce moment on chantait un duo de Rossini. Enfin, il put voir Francesca, mais sans être vu par elle. La princesse était debout à 2 pas du piano. Ses admirables cheveux, si abondants et si longs, étaient retenus par un cercle d'or. Sa figure, illuminée par les bougies, éclatait de la blancheur particulière aux Italiennes, et qui n'a tout son effet qu'aux lumières. Elle était en costume de bal, laissant admirer des épaules magnifiques, sa taille de jeune fille et des bras de statue antique. Sa beauté sublime était là sans rivalité possible, quoiqu'il y eût des Anglaises et des Russes charmantes, les plus jolies femmes de Genève, et d'autres Italiennes parmi lesquelles brillait l'illustre princesse de Varèse, et la fameuse cantatrice Tinti, qui chantait en ce moment. Rodolphe, appuyé contre le chambranle de la porte, regarda la princesse en dardant sur elle ce regard fixe, persistant, attractif, et chargé de toute la volonté humaine concentrée dans ce sentiment appelé « désir », mais qui prend alors le caractère d'un violent commandement. La flamme de ce regard atteignit-elle Francesca? Francesca s'attendait-elle de moment en moment à voir Rodolphe? Au bout de quelques minutes, elle coula un regard vers la porte, comme attirée par ce courant d'amour, et ses yeux sans hésiter se plongèrent dans les yeux de Rodolphe. Un léger frémissement agita ce magnifique visage et ce beau corps. La secousse de l'âme réagissait. Francesca rougit. Rodolphe eut comme toute une vie dans cet échange, si rapide qu'il n'est comparable qu'à un éclair. Mais à quoi comparer son bonheur? Il était aimé. La sublime princesse tenait, au milieu du monde, dans la belle maison Jean-Renaud, la parole donnée par la pauvre exilée, par la capricieuse de la maison Bergmann. L'ivresse d'un pareil moment rend esclave pour toute une vie. Un fin sourire élégant et rusé, candide et triomphant, agita les lèvres de la princesse Gandolfini, qui, dans un moment où elle ne se crut pas observée, regarda Rodolphe en ayant l'air de lui demander pardon de l'avoir trompé sur sa condition. Le morceau terminé, Rodolphe put arriver jusqu'au prince qui l'amena gracieusement à sa femme. Rodolphe échangea les cérémonies d'une présentation officielle avec la princesse, le prince Colonne et Francesca. Quand ce fut fini, la princesse dut faire sa partie dans le fameux quatuor de Mi manca la voce, qui fut exécuté par elle, par la Tinti, par Genovese, le fameux ténor, et par un célèbre prince italien alors en exil, et dont la voix, s'il n'eût pas été prince, l'aurait fait un des princes de l'art. « Asseyez-vous là, » dit à Rodolphe Francesca, qui lui montra sa propre chaise à elle. « Oui, mais je crois qu'il y a erreur de nom. Je suis depuis un moment princesse Rodolphine. » Ce fut dit avec une grâce, un charme, une naïveté qui rappelèrent dans cet aveu caché sous une plaisanterie les jours heureux de Gersault. Rodolphe éprouva la délicieuse sensation d'écouter la voix d'une femme adorée en se trouvant si près d'elle qu'il avait une de ses joues presque effleurée par l'étoffe de la robe et par la gaze de l'écharpe. Mais quand, en un pareil moment, c'est « Mi manca la voce » qui se chante et que ce quatuor est exécuté par les plus belles voix de l'Italie, il est facile de comprendre comment des larmes vinrent mouiller les yeux de Rodolphe. En amour, comme en toute chose peut-être, il est certains faits, minimes en eux-mêmes, mais le résultat de 1000 petites circonstances antérieures, et dont la portée devient immense en résumant le passé, en se rattachant à l'avenir. On a senti mille fois la valeur de la personne aimée. Mais un rien, le contact parfait des âmes unies dans une promenade, par une parole, par une preuve d'amour inattendu, porte le sentiment à son plus haut degré. Enfin, pour rendre ce fait moral, par une image qui depuis le premier âge du monde a eu le plus incontestable succès, il y a, dans une longue chaîne, des points d'attache nécessaires où la cohésion est plus profonde que dans ces guirlandes d'anneaux. Cette reconnaissance entre Rodolphe et Francesca, pendant cette soirée à la face du monde, fut un de ces points suprêmes qui relie l'avenir au passé, qui cloue plus avant au cœur les attachements réels. Peut-être est-ce de ces clous épars que Bossuet a parlé en leur comparant la rareté des moments heureux de notre existence, lui qui ressentit si vivement et si secrètement l'amour. Après le plaisir d'admirer soi-même une femme aimée, vient celui de la voir admirée par tous. Rodolphe eut alors les deux à la fois. L'amour est un trésor de souvenirs, et quoique celui de Rodolphe fût déjà plein, il y ajouta les perles les plus précieuses. Des sourires jetés en côté pour lui seul, des regards furtifs, des inflexions de chant que Francesca trouva pour lui, mais qui firent pâlir de jalousie la Tinti, tant elles furent applaudies. Aussi, toute sa puissance de désir, cette forme spéciale de son âme, se jeta-t-elle sur la belle romaine qui devint inaltérablement le principe et la fin de toutes ses pensées et de ses actions. Rodolphe aima, comme toutes les femmes peuvent rêver d'être aimées, avec une force, une constance, une cohésion qui faisait de Francesca la substance même de son cœur. Il la sentit mêlée à son sang comme un sang plus pur, à son âme comme une âme plus parfaite. Elle allait être sous les moindres efforts de sa vie comme le sable doré de la Méditerranée sous l'onde. Enfin, la moindre aspiration de Rodolphe fut une active espérance. Au bout de quelques jours, Francesca reconnut cet immense amour. Mais il était si naturel, si bien partagé, qu'elle n'en fut pas étonnée. Elle en était digne. « Qu'y a-t-il de surprenant ?» disait-elle à Rodolphe, en se promenant avec lui sur la terrasse de son jardin, après avoir surpris un de ces mouvements de fatuité si naturels aux Français dans l'expression de leurs sentiments. « Quoi de merveilleux à ce que vous aimiez une femme jeune et belle, assez artiste pour pouvoir gagner sa vie comme la Tinti ?» et qui peut donner quelques jouissances de vanité. Quel est le butor qui ne deviendrait alors un Amadis? Ceci n'est pas la question entre nous. Il faut aimer avec constance, avec persistance, et à distance pendant des années, sans autre plaisir que celui de se savoir aimer. Hélas, lui dit Rodolphe, ne trouverez-vous pas ma fidélité dénuée de tout mérite en me voyant occupé par les travaux d'une ambition dévorante? Croyez-vous que je veuille vous voir échangeant un jour le beau nom de princesse Gandolfini pour celui d'un homme qui ne saurait rien? Je veux devenir un des hommes les plus remarquables de mon pays, être riche, être grand, et que vous puissiez être aussi fier de mon nom que de votre nom de Colonna. Je serais bien fâché de ne pas vous voir de tels sentiments au cœur, répondit-elle avec un charmant sourire. Mais ne vous consumez pas trop dans les travaux de l'ambition, restez jeune. On dit que la politique rend un homme promptement vieux. Ce qu'il y a de plus rare chez les femmes est une certaine gaieté qui n'altère point la tendresse. Ce mélange d'un sentiment profond et de la folie du jeune âge ajouta dans ce moment d'adorables attraits à ceux de Francesca. Là est la clé de son caractère. Elle rit et s'attendrit, elle s'exalte et revient à la fine raillerie avec un laisser-aller, une aisance, qui font d'elle la charmante et délicieuse personne dont la réputation s'est d'ailleurs étendue au-delà de l'Italie. Elle cache, sous les grâces de la femme, une instruction profonde, due à la vie excessivement monotone et quasi-monacale qu'elle a menée dans le vieux château de Colonna. Cette riche héritière fut d'abord destinée au cloître, étant le quatrième enfant du prince et de la princesse Colonna. Mais la mort de ses deux frères et de sa sœur aînée la tira subitement de sa retraite pour en faire l'un des plus beaux partis des États romains. Sa sœur aînée ayant été promise au prince Gandolfini, l'un des plus riches propriétaires de la Sicile, Francesca lui fut donnée afin de ne rien changer aux affaires de famille. Les Colonna et les Gandolfini s'étaient toujours alliés entre eux. De 9 ans à 16 ans, Francesca, dirigée par un monsignore et de la famille, avait lu toute la bibliothèque des Colonna pour donner le change à son ardente imagination en étudiant les sciences, les arts et les lettres. Mais elle prit dans l'étude ce goût d'indépendance et d'idées libérales qui la fit se jeter, ainsi que son mari, dans la Révolution. Rodolphe ignorait encore que, sans compter 5 langues vivantes, Francesca sut le grec, le latin et l'hébreu. Cette charmante créature avait admirablement compris qu'une des premières conditions de l'instruction chez une femme est d'être profondément cachée. Rodolphe resta tout l'hiver à Genève. Cet hiver passa comme un jour. Quand vint le printemps, malgré les exquises jouissances que donne la société d'une femme d'esprit, prodigieusement instruite, jeune et folle, cet amoureux éprouva de cruelles souffrances, supportées d'ailleurs avec courage, mais qui parfois se firent jour sur sa physionomie, qui percèrent dans ses manières, dans le discours, peut-être parce qu'il ne les crut pas partagées. Parfois il s'irritait en admirant le calme de Francesca qui, semblable aux Anglaises, paraissait mettre son amour-propre à ne rien exprimer sur son visage, dont la sérénité défiait l'amour. Il l'eût voulu agiter, il l'accusait de ne rien sentir, en croyant au préjugé qui veut, chez les femmes italiennes, une mobilité fébrile. « Je suis romaine, » lui répondit gravement un jour Francesca, qui prit au sérieux quelques plaisanteries faites à ce sujet par Rodolphe. Il y eut dans l'accent de cette réponse une profondeur qui lui donna l'apparence d'une sauvage ironie et qui fit palpiter Rodolphe. Le mois de mai déployait les trésors de sa jeune verdure, le soleil avait des moments de force comme au milieu de l'été. Les deux amants se trouvaient alors appuyés sur la balustrade en pierre qui, dans une partie de la terrasse où le terrain se trouve à pic sur le lac, surmonte la muraille d'un escalier par lequel on descend pour monter en bateau. De la villa voisine, où se voit un embarcadère à peu près pareil, s'élança comme un cygne une yole avec son pavillon à flammes, sa tente à baldaquin cramoisi, sous lequel une charmante femme était mollement assise sur des coussins rouges, coiffée en fleurs naturelles, conduite par un jeune homme vêtu comme un matelot, et ramant avec d'autant plus de grâce qu'il était sous les regards de cette femme. « Ils sont heureux, » dit Rodolphe avec un âpre accent. « Claire de Bourgogne, la dernière de la seule maison qui ait pu rivaliser la maison de France. « Oh, elle vient d'une branche bâtarde, et encore par les femmes. Enfin, elle est vicomtesse de Beauséant et n'a pas... hésité, n'est-ce pas, à s'enterrer avec Monsieur Gaston de Nueil, dit la fille des Colonna. Elle n'est que française, et je suis italienne, mon cher monsieur. Francesca quitta la balustrade, y laissa Rodolphe, et alla jusqu'au bout de la terrasse, d'où l'on embrasse une immense étendue du lac. En la voyant marcher lentement, Rodolphe eut un soupçon d'avoir blessé cette âme à la fois si candide et si savante, si fière et si humble. Il eut froid. Il suivit Francesca qui lui fit signe de la laisser seule. Mais il ne tint pas compte de l'avis et la surprit essuyant des larmes. Des pleurs chez une nature si forte. « Francesca, dit-il en lui prenant la main, y a-t-il un seul regret dans ton cœur ? Elle garda le silence, dégagea sa main qui tenait le mouchoir brodé pour s'essuyer de nouveau les yeux. « Pardon, » reprit-il, et par un élan, il atteignit aux yeux pour essuyer les larmes par des baisers. Francesca ne s'aperçut pas de ce mouvement passionné, tant elle était violemment émue. Rodolphe, croyant à un consentement, s'enhardit. Il saisit Francesca par la taille, la serra sur son cœur et prit un baiser. Mais elle se dégagea par un magnifique mouvement de pudeur offensée, et à deux pas, en le regardant sans colère, mais avec résolution. « Partez ce soir, » dit-elle, « nous ne nous reverrons plus qu'à Naples. » Malgré la sévérité de cet ordre, il fut exécuté religieusement, car Francesca le voulut. De retour à Paris, Rodolphe trouva chez lui le portrait de la princesse Gandolfini, fait par Schinner, comme Schinner sait faire les portraits. Ce peintre avait passé par Genève en allant en Italie. Comme il s'était refusé positivement à faire les portraits de plusieurs femmes, Rodolphe ne croyait pas que le prince, excessivement désireux du portrait de sa femme, eût pu vaincre la répugnance du peintre célèbre. Mais Francesca l'avait séduit sans doute et obtenu de lui, ce qui tenait du prodige, un portrait original pour Rodolphe, une copie pour Emilio. C'est ce que lui disait une charmante et délicieuse lettre, où la pensée se dédommageait de la retenue imposée par la religion des convenances. L'amoureux répondit. Ainsi commença, pour ne plus finir, une correspondance entre Rodolphe et Francesca, seul plaisir qu'ils se permirent. Rodolphe, en proie à une ambition que légitimait son amour, se mit aussitôt à l'œuvre. Il voulut d'abord la fortune, et se risqua dans une entreprise où il jeta toutes ses forces aussi bien que tous ses capitaux. Mais il eut à lutter, avec l'inexpérience de la jeunesse, contre une duplicité qui triompha de lui. 3 ans se perdirent dans une vaste entreprise, 3 ans d'efforts et de courage. Le ministère Villèle succombait aussi quand succomba Rodolphe. Aussitôt l'intrépide amoureux voulut demander à la politique ce que l'industrie lui avait refusé. Mais avant de se lancer dans les orages de cette carrière, il alla tout blessé, tout souffrant, faire panser ses plaies et puiser du courage à Naples, où le prince et la princesse Gandolfini furent rappelés et réintégrés dans leurs biens à l'avènement du roi. Au milieu de sa lutte, ce fut un repos plein de douceur. Il passa 3 mois à la villa Gandolfini, bercé d'espérance. Rodolphe recommença l'édifice de sa fortune. Déjà ses talents avaient été distingués. Il allait enfin réaliser les vœux de son ambition. Une place éminente était promise à son zèle en récompense de son dévouement et des services rendus, quand éclata l'orage de juillet 1830 et sa barque sombra de nouveau. Elle et Dieu, tels sont les deux témoins des efforts les plus courageux, des plus audacieuses tentatives d'un jeune homme doué de qualité, mais à qui, jusqu'alors, a manqué le secours du Dieu des sceaux, le bonheur. Et cet infatigable athlète, soutenu par l'amour, recommence de nouveaux combats, éclairé par un regard toujours ami, par un cœur fidèle, amoureux. Priez pour lui. En achevant ce récit qu'elle dévora, Mademoiselle de Watteville avait les joues en feu, la fièvre était dans ses veines. Elle pleurait mais de rage. Cette nouvelle, inspirée par la littérature alors à la mode, était la première lecture de ce genre qu'il eût été permis à Rosalie de faire. L'amour y était peint, sinon par une main de maître, du moins par un homme qui semblait raconter ses propres impressions. Or, la vérité, fût-elle inhabile, devait toucher une âme encore vierge. Là se trouvait le secret des agitations terribles, de la fièvre et des larmes de Rosalie. Elle était jalouse de Francesca Colonna. Elle ne doutait pas de la sincérité de cette poésie. Albert avait pris plaisir à raconter le début de sa passion, en cachant sans doute les noms, peut-être aussi les lieux. Rosalie était saisie d'une infernale curiosité. Quelle femme n'eût pas, comme elle, voulu savoir le vrai nom de sa rivale, car elle aimait. En lisant ces pages contagieuses pour elle, elle s'était dit ce mot solennel, « J'aime ». Elle aimait Albert, et se sentait au cœur une mordante envie de le disputer, de l'arracher à cette rivale inconnue. Elle pensa qu'elle ne savait pas la musique, et qu'elle n'était pas belle. « Il ne m'aimera jamais », se dit-elle. Cette parole redoubla son désir de savoir si elle ne se trompait pas, si réellement Albert aimait une princesse italienne, et s'il était aimé d'elle. Durant cette fatale nuit, l'esprit de décision rapide qui distinguait le fameux Watteville se déploya tout entier chez son héritière. Elle enfanta de ses plans bizarres, autour desquels flottent d'ailleurs presque toutes les imaginations de jeunes filles, quand au milieu de la solitude où quelques mères imprudentes les retiennent, elles sont excitées par un événement capital que le système de compression auquel elles sont soumises n'a pu ni prévoir ni empêcher. Elle pensait à descendre avec une échelle par le kiosque dans le jardin de la maison où demeurait Albert, à profiter du sommeil de l'avocat pour voir par sa fenêtre l'intérieur de son cabinet. Elle pensait à lui écrire. Elle pensait à briser les liens de la société byzantine en introduisant Albert dans le salon de l'hôtel de Rupt. Cette entreprise, qui eût paru le chef-d'œuvre de l'impossible à l'abbé de Grancey lui-même, fut l'affaire d'une pensée. « Ah !» se dit-elle, « mon père a des contestations à sa terre des Rouxey. J'irai. S'il n'y a pas de procès, j'en ferai naître. Et il viendra dans notre salon, » s'écria-t-elle en s'élançant de son lit à sa fenêtre, pour aller voir la lumière prestigieuse qui éclairait les nuits d'Albert. 1 heure du matin sonnait. Il dormait encore. Je vais le voir à son lever. Il viendra peut-être à sa fenêtre. En ce moment, Mademoiselle de Watteville fut témoin d'un événement qui devait remettre entre ses mains le moyen d'arriver à connaître les secrets d'Albert. À la lueur de la lune, elle aperçut 2 bras tendus hors du kiosque et qui aidèrent Jérôme, le domestique d'Albert, à franchir la crête du mur et à entrer sous le kiosque. Dans la complice de Jérôme, Rosalie reconnut aussitôt Mariette, la femme de chambre. « Mariette et Jérôme, se dit-elle. Mariette, une fille si laide. Certes, ils doivent avoir honte l'un et l'autre. » Si Mariette était horriblement laide et âgée de 36 ans, elle avait eu par héritage plusieurs quartiers de terre. Depuis 17 ans au service de Madame de Watteville, qui l'estimait fort à cause de sa dévotion, de sa probité, de son ancienneté dans la maison, elle avait sans doute économisé, placé ses gages et ses profits. Or, à raison d'environ 10 louis par année, elle devait posséder, en comptant les intérêts des intérêts et ses héritages, environ 15 000 francs. Aux yeux de Jérôme, 15 000 francs changeaient les lois de l'optique. Il trouvait à Mariette une jolie taille. Il ne voyait plus les trous et les coutures qu'une affreuse petite vérole avait laissées sur ce visage plat et sec. Pour lui, la bouche contournée était droite, et depuis qu'en le prenant à son service, l'avocat Savaron l'avait rapproché de l'hôtel de Rupt, il fit le siège en règle de la dévote femme de chambre, aussi raide, aussi prude que sa maîtresse, et qui, semblable à toutes les vieilles filles laides, se montrait plus exigeante que les plus belles personnes. Si maintenant la scène nocturne du kiosque est expliquée pour les personnes clairvoyantes, elle l'était très peu pour Rosalie, qui néanmoins y gagna la plus dangereuse de toutes les instructions, celle que donne le mauvais exemple. Une mère élève sévèrement sa fille, la couve de ses ailes pendant 17 ans, et dans 1 heure, une servante détruit ce long et pénible ouvrage, quelquefois par un mot, souvent par un seul geste. Rosalie se recoucha, non sans penser à tout le parti qu'elle pouvait tirer de sa découverte. Le lendemain matin, en allant à la messe, en compagnie de Mariette, la baronne était indisposée, Rosalie prit le bras de sa femme de chambre, ce qui surprit étrangement la comtoise. « Mariette, lui dit-elle, Jérôme a-t-il la confiance de son maître ?»« Je ne sais pas, mademoiselle. » »« Ne faites pas l'innocente avec moi, » répondit sèchement Rosalie. « Vous vous êtes laissé embrasser par lui cette nuit sous le kiosque. » « Je ne m'étonne plus si vous approuviez tant ma mère à propos des embellissements qu'elle y projetait. » Rosalie sentit le tremblement qui saisit Mariette par celui de son bras. « Je ne vous veux pas de mal, » dit Rosalie en continuant, « rassurez-vous, et je ne dirai pas un mot à ma mère, et vous pourrez voir Jérôme tant que vous voudrez. » « Mais, mademoiselle, » répondit Mariette, « c'est en tout bien, tout honneur, Jérôme n'a pas d'autre intention que celle de m'épouser. » « Mais alors, pourquoi vous donner des rendez-vous la nuit ?» Mariette, atterrée, ne sut rien répondre. « Écoutez, Mariette, j'aime aussi, moi. J'aime en secret et toute seule. Je suis, après tout, unique enfant de mon père et de ma mère. Ainsi, vous avez plus à espérer de moi que de qui que ce soit au monde. « Certainement, mademoiselle, vous pouvez compter sur nous à la vie et à la mort !» s'écria Mariette, heureuse de ce dénouement imprévu. « D'abord, silence pour silence, » dit Rosalie. « Je ne veux pas épouser Monsieur de Soulas, mais je veux et absolument une certaine chose. Ma protection ne vous appartient qu'à ce prix. »« Quoi ?» demanda Mariette. « Je veux voir les lettres que Monsieur Savaron fera mettre à la poste par Jérôme. »« Mais pourquoi faire ?» dit Mariette effrayée. « Oh, rien que pour les lire, et vous les jetterez vous-même à la poste après. » Cela ne fera qu'un peu de retard, voilà tout. » En ce moment, Rosalie et Mariette entrèrent à l'église, et chacune d'elles fit ses réflexions, au lieu de lire l'ordinaire de la messe. « Mon Dieu, combien y a-t-il donc de péché dans tout cela ?» se dit Mariette. Rosalie, dont l'âme, la tête et le cœur étaient bouleversés par la lecture de la nouvelle, y vit enfin une sorte d'histoire écrite pour sa rivale. À force de réfléchir, comme les enfants, à la même chose, elle finit par penser que la revue de l'Est devait être envoyée à la bien-aimée d'Albert. « Oh !» se disait-elle à genoux, la tête plongée dans ses mains et dans l'attitude d'une personne abîmée dans la prière, « Oh ! Comment amener mon père à consulter la liste des gens à qui l'on envoie cette revue ?» Après le déjeuner, elle fit un tour de jardin avec son père, en le cajolant, et l'amena sous le kiosque. « Crois-tu, mon cher petit père, que notre revue aille à l'étranger ?»« Elle ne fait que commencer. »« Eh bien, je parie qu'elle y va. »« Ce n'est guère possible. »« Va le savoir et prends les noms des abonnés à l'étranger. » 2 heures après, Monsieur de Watteville dit à sa fille, « J'ai raison, il n'y a pas encore un abonné dans les pays étrangers. » L'on espère en avoir à Neuchâtel, à Berne, à Genève. On en envoie bien un exemplaire en Italie, mais gratuitement à une dame milanaise, à sa compagne sur le lac Majeur, à Belgirate. Son nom ? Dit vivement Rosalie. La duchesse d'Argaiolo. La connaissez-vous, mon père ? J'en ai naturellement entendu parler. Elle est née princesse Soderini. C'est une Florentine, une très grande dame. Est tout aussi riche que son mari, qui possède une des plus belles fortunes de la Lombardie. Leur villa, sur le lac Majeur, est une des curiosités de l'Italie. 2 jours après, Mariette remit la lettre suivante à Rosalie. Albert Savaron à Léopold Alquin. Eh bien oui, mon cher ami, je suis à Besançon pendant que tu me croyais en voyage. Je n'ai rien voulu te dire qu'au moment où le succès commencerait, et voici son aurore. Oui, cher Léopold, après tant d'entreprises avortées, où j'ai dépensé le plus pur de mon sang, où j'ai jeté tant d'efforts, usé tant de courage, j'ai voulu faire comme toi, prendre une voie battue, le grand chemin le plus long, le plus sûr. Quel bond je te vois faire sur ton fauteuil de notaire! Mais ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit de changé à ma vie intérieure, dans le secret de laquelle il n'y a que toi au monde, et encore sous les réserves qu'elle a exigées. Je ne te le disais pas, mon ami, mais je me lassais horriblement à Paris. le dénouement de la première entreprise où j'ai mis toutes mes espérances et qui s'est trouvée sans résultat par la profonde scélératesse de mes deux associés, d'accord pour me tromper, pour me dépouiller, moi, à l'activité de quoi tout était dû, m'a fait renoncer à chercher la fortune pécuniaire après avoir ainsi perdu 3 ans de ma vie, dont une année à plaider. Peut-être m'en serais-je plus mal tiré si je n'avais pas été contraint à 20 ans d'étudier le droit. J'ai voulu devenir un homme politique, uniquement pour être un jour compris dans une ordonnance sur la pairie sous le titre de comte Albert Savaron de Savarus, et faire revivre en France un beau nom qui s'éteint en Belgique, encore que je ne sois ni légitime ni légitimé. « Ah, j'en étais sûr, il est noble !» s'écria Rosalie en laissant tomber la lettre. « Tu sais quelles études consciencieuses j'ai faites, quel journaliste obscur, mais dévoué, mais utile, et quel admirable secrétaire je fus pour l'homme d'État qui, d'ailleurs, me fut fidèle en 1829. Replongé dans le néant par la révolution de juillet, alors que mon nom commençait à briller, au moment où, maître des requêtes, j'allais enfin entrer comme un rouage nécessaire dans la machine politique, j'ai commis la faute de rester fidèle aux vaincus, de lutter pour eux sans eux. Ah, pourquoi n'avais-je que 33 ans, et comment ne t'ai-je pas prié de me rendre éligible? Je t'ai caché tous mes dévouements et mes périls. Que veux-tu? J'avais la foi. Nous n'eussions pas été d'accord. Il y a 10 mois, pendant que tu me voyais si gai, si content, écrivant mes articles politiques, j'étais au désespoir. Je me voyais à 37 ans, avec 2 000 francs pour toute fortune, sans la moindre célébrité, venant d'échouer dans une noble entreprise, celle d'un journal quotidien qui ne répondait qu'à un besoin de l'avenir, au lieu de s'adresser aux passions du moment. Je ne savais plus quel parti prendre, et je me sentais. J'allais, sombre et blessé, dans les endroits solitaires de ce Paris qui m'avait échappé, pensant à mes ambitions trompées, mais sans les abandonner. Oh, quelles lettres empreintes de rage ne lui ai-je pas écrites alors, à elle, cette seconde conscience, cet autre moi. Par moments, je me disais, pourquoi m'être tracé un si vaste programme pour mon existence? Pourquoi tout vouloir? Pourquoi ne pas attendre le bonheur en me vouant à quelque occupation quasi mécanique? J'ai jeté les yeux alors sur une modeste place où je pusse vivre. J'allais avoir la direction d'un journal, sous un gérant qui ne savait pas grand-chose, un homme d'argent ambitieux, quand la terreur m'a pris. Voudra-t-elle pour mari d'un amant qui sera descendu si bas? Me suis-je dit. Cette réflexion m'a rendu mes 22 ans. Oh, mon cher Léopold, combien l'âme s'use dans ses perplexités! Que doivent donc souffrir les aigles en cage, les lions emprisonnés? Ils souffrent tout ce que souffrait Napoléon, non pas à Sainte-Hélène, mais sur le quai des Tuileries, au 10 août, quand il voyait Louis XVI se défendre si mal, lui qui pouvait dompter la sédition, comme il le fit plus tard sur les mêmes lieux en Vendémiaire. Eh bien, ma vie a été cette souffrance d'un jour, étendue sur 4 ans. Combien de discours à la chambre n'ai-je pas prononcé dans les allées désertes du bois de Boulogne? Ces improvisations inutiles ont du moins aiguisé ma langue et accoutumé mon esprit à formuler ces pensées en paroles. Durant ces tourments secrets, toi, tu te mariais, tu achevais de payer ta charge et tu devenais adjoint au maire de ton arrondissement après avoir gagné la croix en te faisant blesser à Saint-Méry. Écoute, quand j'étais tout petit et que je tourmentais des hannetons, il y avait chez ces pauvres insectes un mouvement qui me donnait presque la fièvre. C'est quand je les voyais faisant ces efforts réitérés pour prendre leur vol, sans néanmoins s'envoler, quoiqu'ils eussent réussi à soulever leurs ailes. Nous disions d'eux, ils comptent. Était-ce une sympathie? Était-ce une vision de mon avenir? Oh, déployer ses ailes et ne pouvoir voler. Voilà ce qui m'est arrivé depuis cette belle entreprise, de laquelle on m'a dégoûté, mais qui maintenant a enrichi 4 familles. Enfin, il y a 7 mois, je résolus de me faire un nom au barreau de Paris, en voyant quel vide y laissaient les promotions de tant d'avocats à des places éminentes. Mais, en me rappelant les rivalités que j'avais observées au sein de la presse, et combien il est difficile de parvenir à quoi que ce soit à Paris, cette arène où tant de champions se donnent au rendez-vous, je pris une résolution cruelle pour moi, d'un effet certain et peut-être plus rapide que tout autre. Tu m'avais bien expliqué dans nos causeries la constitution sociale de Besançon. L'impossibilité pour un étranger d'y parvenir, d'y faire la moindre sensation, de s'y marier, de pénétrer dans la société, d'y réussir en quoi que ce soit. Ce fut là que je voulus aller planter mon drapeau, pensant avec raison y éviter la concurrence, et m'y trouver seul à briguer la députation. Les Comtois ne veulent pas voir l'étranger ne les verra pas. Ils se refusent à l'admettre dans leur salon, il n'ira jamais. Il ne se montrera nulle part, pas même dans les rues. Mais il est une classe qui fait les députés, la classe commerçante. Je vais spécialement étudier les questions commerciales que je connais déjà, je gagnerai des procès, j'accorderai les différends, je deviendrai le plus fort avocat de Besançon. Plus tard, j'y fonderai une revue où je défendrai les intérêts du pays, où je les ferai naître, vivre ou renaître. Quand j'aurai conquis un à un assez de suffrages, mon nom sortira de l'urne. On dédaignera pendant longtemps l'avocat inconnu, mais il y aura une circonstance qui le mettra en lumière, une plaidoirie gratuite, une affaire de laquelle les autres avocats ne voudront pas se charger. Si je parle une fois, je suis sûr du succès. Eh bien, mon cher Léopold, j'ai fait emballer ma bibliothèque dans 11 caisses. J'ai acheté les livres de droit qui pouvaient m'être utiles, et j'ai mis tout, ainsi que mon mobilier, au roulage pour Besançon. J'ai pris mes diplômes, j'ai réuni 1000 écus, et je suis venu te dire adieu. La malle-poste m'a jeté dans Besançon, où j'ai, dans 3 jours de temps, choisi un petit appartement qui a vue sur des jardins. J'y ai somptueusement arrangé le cabinet mystérieux où je passe mes nuits et mes jours, et où brille le portrait de mon idole, de celle à laquelle ma vie est vouée, qui la remplit, qui est le principe de mes efforts, le secret de mon courage, la cause de mon talent. Puis, quand les meubles et les livres sont arrivés, j'ai pris un domestique intelligent et suis resté pendant 5 mois comme une marmotte en hiver. On m'avait d'ailleurs inscrit au tableau des avocats. Enfin, on m'a nommé d'office pour défendre un malheureux aux assises, sans doute pour m'entendre parler au moins une fois. Un des plus influents négociants de Besançon était du jury. Il avait une affaire épineuse. J'ai tout fait dans cette cause pour cet homme, et j'ai eu le succès le plus complet du monde. Mon client était innocent. J'ai fait dramatiquement arrêter les vrais coupables qui étaient au nombre des témoins. Enfin, la cour a partagé l'admiration de son public. J'ai su sauver l'amour-propre du juge d'instruction en montrant la presque impossibilité de découvrir une trame si bien ourdie. J'ai eu la clientèle de mon gros négociant et je lui ai gagné son procès. Le chapitre de la cathédrale m'a choisi pour avocat dans un immense procès avec la ville qui dure depuis 4 ans. J'ai gagné. En 3 affaires, je suis devenu le plus grand avocat de la Franche-Comté. Mais j'ensevelis ma vie dans le plus profond mystère et cache ainsi mes prétentions. J'ai contracté des habitudes qui me dispensent d'accepter toute invitation. On ne peut me consulter que de 6 heures à 8 heures du matin. Je me couche après mon dîner et je travaille pendant la nuit. Le vicaire général, homme d'esprit et très influent, qui m'a chargé de l'affaire du chapitre, déjà perdu en première instance, m'a naturellement parlé de reconnaissance. « Monsieur, lui ai-je dit, je gagnerai votre affaire, mais je ne veux pas d'honoraires, je veux plus. »
Oh, le corps de l'abbé.
Sachez que je perds énormément à me poser comme l'adversaire de la ville. Je suis venu ici pour en sortir député. Je ne veux m'occuper que d'affaires commerciales, parce que les commerçants font les députés, et ils se défieront de moi si je plaide pour les prêtres, car vous êtes les prêtres pour eux. Si je me charge de votre affaire, c'est que j'étais en 1828 secrétaire particulier à tel ministère, nouveau mouvement d'étonnement chez mon abbé, maître des requêtes sous le nom d'Albert de Savarus, autre mouvement. Je suis resté fidèle aux principes monarchiques, mais comme vous n'avez pas la majorité dans Besançon, il faut que j'acquière des voix dans la bourgeoisie. Donc, les honoraires que je vous demande, c'est les voix que vous pourrez faire porter sur moi dans un moment opportun, secrètement. Gardons-nous le secret l'un de l'autre, et je plaiderai, gratis, toutes les affaires de tous les prêtres du diocèse. Pas un mot de mes antécédents, et soyons-nous fidèles. Quand il est venu me remercier, il m'a remis un billet de 500 francs et m'a dit à l'oreille, « Les voix tiennent toujours. » En 5 conférences que nous avons eues, je me suis fait, je crois, un ami de ce vicaire général. Maintenant, accablé d'affaires, je ne me charge que de celles qui regardent les négociants en disant que les questions de commerce sont ma spécialité. Cette tactique m'attache les gens de commerce et me permet de rechercher les personnes influentes. Ainsi, tout va bien. D'ici à quelques mois, j'aurai trouvé dans Besançon une maison à acheter qui puisse me donner le sens. Je compte sur toi pour me prêter les capitaux nécessaires à cette acquisition. Si je mourais, si j'échouais, il n'y aurait pas assez de pertes pour que ce soit une considération entre nous. Les intérêts te seront servis par les loyers, et j'aurai d'ailleurs soin d'attendre une bonne occasion afin que tu ne perdes rien à cette hypothèque nécessaire. Ah, mon cher Léopold, jamais joueur, ayant dans sa poche les restes de sa fortune et la jouant au cercle des étrangers, dans une dernière nuit d'où il doit sortir riche ou ruiné, n'a eu dans les oreilles les tintements perpétuels, dans les mains la petite sueur nerveuse, dans la tête l'agitation fébrile, dans le corps les tremblements intérieurs que j'éprouve tous les jours en jouant ma dernière partie au jeu de l'ambition. Hélas, cher et seul ami, voici bientôt 10 ans que je lutte. Ce combat avec les hommes et les choses, où j'ai sans cesse versé ma force et mon énergie, où j'ai tant usé les ressorts du désir, m'a ruiné, pour ainsi dire, intérieurement. Avec les apparences de la force, de la santé, je me sens ruiné. Chaque jour emporte un lambeau de ma vie intime. À chaque nouvel effort, je sens que je ne pourrai plus le recommencer. Je n'ai plus de force et de puissance que pour le bonheur, et s'il n'arrivait pas à poser sa couronne de roses sur ma tête, le « moi » que je suis n'existerait plus. Je deviendrais une chose détruite. Je ne désirerais plus rien dans le monde. Je ne voudrais plus rien être. Tu le sais, le pouvoir et la gloire, cette immense fortune morale que je cherche, n'est que secondaire. C'est pour moi le moyen de la félicité, le piédestal de mon idole. Atteindre au but en expirant, comme le coureur antique, voir la fortune et la mort arrivant ensemble sur le seuil de sa porte, obtenir celle qu'on aime au moment où l'amour s'éteint, n'avoir plus la faculté de jouir quand on a gagné le droit de vivre heureux. Oh, de combien d'hommes ceci fut la destinée! Il y a certains moments où Tantale s'arrête, se croise les bras, et défie l'enfer en renonçant à son métier d'éternel attrapé. J'en serais là si quelque chose faisait manquer mon plan, si après m'être courbé dans la poussière de la province, avoir rampé comme un tigre affamé autour de ses négociants, de ses électeurs pour avoir leur vote, si après avoir plaidaillé d'arides affaires, avoir donné mon temps, un temps que je pourrais passer sur le lac majeur, avoir les eaux qu'elle voit, à me coucher sous ses regards, à l'entendre. Je ne m'élançais pas à la tribune pour y conquérir l'auréole que doit avoir un nom pour succéder à celui d'Argaiolo. Bien plus, Léopold, je sens par certains jours des langueurs vaporeuses. Il s'élève du fond de mon âme des dégoûts mortels, surtout quand, en de longues rêveries, je me suis plongé par avance au milieu des joies de l'amour heureux. Le désir n'aurait-il en nous qu'une certaine dose de force, et peut-il périr sous une trop grande effusion de sa substance? Après tout, en ce moment, ma vie est belle, éclairée par la foi, par le travail et par l'amour. Adieu, mon ami. J'embrasse tes enfants et tu rappelleras au souvenir de ton excellente femme, votre Albert. Rosalie lut deux fois cette lettre dont le sens général se grava dans son cœur. Elle pénétra soudain dans la vie antérieure d'Albert, car sa vive intelligence lui en expliqua les détails et lui en fit parcourir l'étendue. En rapprochant cette confidence de la nouvelle publiée dans la revue, elle comprit alors Albert tout entier. Naturellement, elle s'exagéra les proportions déjà fortes de cette belle âme, de cette volonté puissante, et son amour pour Albert devint alors une passion dont la violence s'accrut de toute la force de sa jeunesse, des ennuis de sa solitude et de l'énergie secrète de son caractère. Aimer est déjà chez une jeune personne un effet de la loi naturelle. Mais quand son besoin d'affection se porte sur un homme extraordinaire, il s'y mêle l'enthousiasme qui déborde dans les jeunes cœurs. Aussi mademoiselle de Watteville arriva-t-elle en quelques jours à une phase quasi morbide et très dangereuse de l'exaltation amoureuse. La baronne était très contente de sa fille, qui, sous l'empire de ses profondes préoccupations, ne lui résistait plus, paraissait appliquée à ses divers ouvrages de femme et réalisait son beau idéal de la fille soumise. L'avocat plaidait alors deux ou trois fois par semaine. Quoique accablé d'affaires, il suffisait au palais, au contentieux du commerce, à la revue, et restait dans un profond mystère en comprenant que plus son influence serait sourde et cachée, plus réelle elle serait. Mais il ne négligeait aucun moyen de succès en étudiant la liste des électeurs bisontins et recherchant leurs intérêts, leurs caractères, leurs diverses amitiés, leurs antipathies. Un cardinal voulant être pape s'est-il jamais donné tant de soins? Un soir, Mariette, en venant habiller Rosalie pour une soirée, lui apporta, non sans gémir sur cet abus de confiance, une lettre dont la suscription fit frémir et pâlir et rougir mademoiselle de Watteville.